Votre rendez-vous quotidien avec l'info et le journal de la rédaction et avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
À la une ce vendredi, un enlèvement de masse au Nigeria.
Oui, des hommes armés sont accusés d'avoir enlevé hier plus de 200 élèves, des enfants. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens relèvent-elles du crime de guerre? C'est ce que laisse entendre un rapport de l'ONU publié ce matin et qui s'inquiète notamment de ce que leur expansion risque d'éliminer toute possibilité d'établir un État palestinien viable. Un long combat pour la liberté. Emmanuel Macron est actuellement sur la place Vendôme à Paris en face du ministère de la Justice pour le scellement de la loi constitutionnelle sur l'IVG. Nous serons en direct de la cérémonie. Puis à l'occasion de cette journée du 8 mars, on parlera des femmes dans les mouvements sociaux avec notre invitée aujourd'hui, l'historienne Fanny Gallo. Enfin, son œuvre aura accompagné plusieurs générations. Akira Toriyama, le père de Dragon Ball, est mort à l'âge de 68 ans. On reviendra sur la genèse de ses 42 volumes contenant la vie et les aventures du jeune Son Goku. Avec un taux de chômage élevé, une pauvreté extrême, le délabrement de ses infrastructures, le Nigeria, pourtant un géant pétrolier, n'avait certainement pas besoin d'assombrir davantage encore le tableau. Et pourtant, avec l'insécurité généralisée alimentée par les groupes djihadistes, mais aussi les affrontements intercommunautaires, la violence y est aujourd'hui hors de contrôle. Et tout particulièrement, les enlèvements de masse contre rançon, après que plus de 100 femmes ont été kidnappées la semaine dernière dans le nord-est du pays, hier dans le Nord-Ouest, cette fois-ci, ce sont donc près de 300 élèves de deux écoles, primaires et secondaires, qui ont été enlevés lors d'une attaque par des hommes en armes. Les précisions sur place de Moïse Gomis.
Sani Abdoulaye est toujours complètement sonné. Cet enseignant était dans le bureau du principal lorsque des hommes armés envahissent la cour du collège de Kuriga. Très agressifs, ces assaillants obligent alors toute la communauté scolaire à quitter le bâtiment. Selon Sani Abdoulaye, environ 700 élèves se trouvent ce jeudi matin dans l'établissement et donc élèves, enseignants et personnel administratif du collège de Kuriga sont conduits de force vers un lieu inconnu. En chemin, Sani Abdoulaye ainsi que plusieurs personnes réussissent à s'échapper et dès leur retour au village de Kuriga, l'alerte est donnée. Une dizaine de miliciens volontaires appelés Vigilantes au Nigeria se lancent alors à la poursuite des ravisseurs. Cette tentative pour libérer davantage d'élèves et d'enseignants échoue. Un vigilante est tué dans les échanges de coups de feu. Venu soutenir les habitants de Kuriga, Uba Sani, le gouverneur de l'état de Kaduna, a fait une promesse. Je cite « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer le retour en toute sécurité de ces enfants, même si cela signifie de nous installer à Kuriga pour rester avec vous. » Fin de citation.
L'horizon est-il enfin en train de se dégager au Sénégal?
Sauf ultime rebondissement, l'élection présidentielle se tiendra bien le 24 mars prochain, avec entre-temps plusieurs développements comme l'adoption d'une loi d'amnistie qui pourrait profiter aux candidats de l'opposition, de sorte que ce scrutin, dont le report de dernière minute par l'actuel président Macky Sall avait provoqué une crise profonde, sera peut-être même au final le plus ouvert de l'histoire contemporaine du pays. À Gaza, aujourd'hui comme hier et très probablement encore demain, le quotidien ne se raconte toujours pas autrement qu'à travers les bombardements, les destructions et la mort. Pendant ce temps, les négociations pour un cessez-le-feu s'enlisent. L'hypothèse qu'un arrêt des combats intervienne avant le début du mois de Ramadan semble de plus en plus incertaine. Et face à cette situation désespérée, mais aussi sans doute pour faire taire les critiques reprochant aux États-Unis de ne pas avoir freiné les attaques de son allié Israël, Washington manifeste de plus en plus publiquement son impatience à l'égard de Jérusalem. Hier, non seulement Joe Biden a appelé à un cessez-le-feu immédiat, mais le président américain a également proposé de construire un port, plus exactement un ponton flottant dans l'enclave de Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire par voie maritime. Sauf qu'en réalité, des questions cruciales à ce jour encore sans réponse demeurent sur la réussite d'une telle opération. Qui construira ce pont? Qui assurera la sécurité de la distribution de l'aide au sol? Et surtout, le gouvernement de Benjamin Netanyahou autorisera a-t-il l'entrée de l'aide dans l'enclave? Sans compter qu'on imagine combien les autorités israéliennes ont dû assez peu goûter ce matin la mise en garde lancée cette fois-ci par l'ONU, ou quand dans un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il est écrit, Nathanaël Charbonnier, que l'établissement et l'expansion de colonies dans les territoires palestiniens occupés relèvent, je cite, du crime de guerre.
Le transfert de population d'Israël vers les territoires occupés est considéré par l'ONU comme pouvant entrer dans ce qu'on qualifie de crime de guerre. et le rapport de préciser les choses en expliquant que la responsabilité des colons peut être engagée, les faits concernés toucheraient la période de novembre 2022 à octobre 2023. Avec un constat, ce sont plus de 24 000 unités de logement qui ont été construites au sein des colonies déjà existantes en Cisjordanie, du jamais vu depuis 2017. Et le haut commissaire de s'inquiéter, lui, des projets de colonies à venir. Israël parlait cette semaine, par exemple, de la construction de près de 3500 logements supplémentaires dans les régions d'Ephrate ou encore de Kedar. Mais les crimes, ce ne sont pas que les constructions de nouveaux logements. C'est aussi, explique l'ONU, les expulsions forcées, la non-délivrance de permis de construire ou la démolition de maisons, ainsi que les restrictions de mouvement pour les Palestiniens. Enfin, un chiffre, le rapport estime à près de 500 000 le nombre de personnes qui vivent dans des colonies jugées illégales au regard du droit international.
Alors, hier, quelques heures après avoir proposé son nouveau plan pour Gaza, le président américain a prononcé son discours sur l'état de l'Union, un discours en forme de plaidoyer pour un second mandat, un discours également énergique et pugnace pour le vétéran de la politique américaine, lequel aura attaqué son prédécesseur avec une férocité rare, sans jamais d'ailleurs le nommer. Enfin, face à la rhétorique du déclin de son adversaire républicain, Joe Biden a lui promis d'incarner l'optimisme. La question pour notre pays, ce n'est pas notre âge, c'est l'âge de nos idées, a-t-il lancé au Congrès, devant des élus démocrates debout, quand de l'autre côté de la salle et sans surprise, les républicains sont eux restés vissés à leur banc.
De son côté, Donald Trump a prévu d'accueillir aujourd'hui, dans sa luxueuse résidence de Floride, l'un des rares dirigeants européens à souhaiter sa victoire à la prochaine présidentielle.
Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, dont le style de gouvernance controversé, les dérives autoritaires, inversion des contre-pouvoirs, appétence pour la désinformation, le rapproche forcément du tempétueux milliardaire américain. Lui est passé maître dans la diplomatie d'équilibriste, voire transactionnelle. Lui, c'est Recep Tayyip Erdogan. Le président turc recevra aujourd'hui son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, une semaine après avoir reçu le ministre russe des Affaires étrangères, où Ankara cherche par tous les moyens à maintenir le contact à la fois avec Kiev et Moscou.
Des milliards d'euros de profits et de dividendes.
L'an dernier, les entreprises du CAC 40 auront très largement déjoué les craintes d'une récession jusqu'à dégager plus de 146 milliards d'euros de bénéfices nets cumulés, avec en tête Total Energy, 21 milliards. Le secteur du luxe continue de briller en hausse de 7%. L'automobile fait elle aussi grimper le compteur. Enfin, côté banque, les coffres se remplissent, plus 17%. Alors ce bilan 2023 des 38 entreprises de l'indice phare de la Bourse de Paris reste, c'est vrai, en dessous du record en 2021, mais supérieur en revanche à 2022, les précisions de Marie Vino.
Total Energy, Stellantis, LVMH, BNP Paribas, AXA, voilà le top 5 des profits en 2023. Des résultats qui peuvent sembler en contradiction avec la situation économique française, plutôt morose. Mais les entreprises du CAC 40, étant très ouvertes sur l'international, elles réalisent les trois quarts de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Qui dit profit record, dit aussi distribution de dividendes record. 67,8 milliards d'euros au total, c'est un record absolu. En 2021, les dividendes distribués aux actionnaires avaient été de 45 milliards d'euros. Ce qui augmente aussi, ce sont les rachats d'actions. La pratique qui consiste pour les entreprises à dépenser leur cash pour acheter leurs propres actions, faire monter leurs cours et attirer des actionnaires. Les sociétés du CAC 40 y ont consacré 30 milliards d'euros en 2023 contre 25 en 2022. Au printemps dernier, Emmanuel Macron avait qualifié cette pratique de « cynisme à l'œuvre », je le cite. Mais quand des députés, à l'automne, allant de Renaissance à la France Insoumise, en passant par le Modem et le Parti Socialiste, ont déposé des amendements dans le projet de loi de finances pour taxer ces rachats d'actions, ils ont tous été retoqués par Bercy. Alors que le gouvernement dit aujourd'hui chercher à limiter les déficits, cette moisson record des profits du CAC 40, des dividendes et des rachats d'actions aurait de quoi relancer ce débat.
Il est 12h39, vous écoutez France Culture et le journal de Thomas Cluzel.
Avant les manifestations prévues dans tout le pays pour défendre l'égalité femmes-hommes, cette journée du 8 mars aura d'abord été l'occasion d'un moment rare, la pose du sceau sur la Constitution, où sera désormais mentionnée la liberté de recourir à l'IVG. La cérémonie du scellement a lieu en ce moment même, place Vendôme à Paris, en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron, le président, qui salue un aboutissement nécessaire.
Le sceau de la République scelle en ce jour un long combat pour la liberté. Un combat fait de larmes, de drames, de destins brisés. Inscrire dans notre Constitution la liberté garantie du recours à l'avortement pouvait sembler moins nécessaire voilà encore quelques années. Mais les reculs de notre époque en ont fait une nécessité et une urgence. Car partout dans le monde, nous assistons au recul du droit à l'avortement. Alors, puisque l'impensable survient, il nous fallait graver l'irréversible.
Voilà, alors c'est aujourd'hui la dernière étape du long parcours législatif de cette loi avant sa publication au journal officiel prévu demain. Et c'est la 15e fois que cette cérémonie de scellement a lieu. La dernière, c'était en 2008. En revanche, fait historique, elle se tient pour la première fois en public. Jeanne Serrin, vous êtes sur place où le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vient d'apposer les sceaux de la République sur la loi.
Oui, tout à fait, Thomas. C'est Éric Dupond-Moretti, hein, le garde des Sceaux, qui vient de procéder au scellement. Pour ça, la marche à suivre était très précise, hein. Il a fallu tourner le balancier d'une presse, un objet historique qui n'était pas sorti du ministère de la Justice depuis plus de 10 ans. Plusieurs tours pour apposer une galette de cire verte, les Sceaux de la République, sur le document original de la loi. S'en est suivi plusieurs minutes d'applaudissements et l'intonation de l'hymne du mouvement de libération des femmes, chanté par des militantes féministes. Alors rappelons que le scellement de la loi n'a pas de réelle valeur juridique, hein. C'est simplement un acte symbolique. Tout ce protocole, donc, car Emmanuel Macron voulait faire de cette cérémonie un moment historique, solennel pour le droit des femmes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle se fait pour la première fois en public, hein, vous l'avez dit, et non pas à huis clos à la chancellerie. Ici, Place Vendôme, il y a donc des centaines de spectateurs qui suivent les discours sur deux écrans géants. Sont présents également des membres d'associations et des parlementaires qui saluent la portée historique de ce moment. Écoutez Manon Aubry, députée de la France Insoumise.
C'est important parce que devant l'ensemble des Françaises et des Français, on le dit, plus jamais le droit à l'avortement ne sera remis en question dans notre pays. Et c'est une victoire historique. On n'en a pas eu beaucoup, je crois, ces dernières années sur les droits des femmes. Ça fait du bien et je pense que c'est la démonstration que même quand on nous dit que c'est impossible, quand la société se met en mouvement, alors plus rien ne peut l'arrêter.
Voilà, Emmanuel Macron vient de finir son discours, discours dans lequel il a notamment annoncé son intention d'inscrire la liberté garantie du recours à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Merci Jeanne Serrin, ainsi qu'à Florent Layani pour les moyens techniques. Alors pour les associations féministes invitées à cette cérémonie, la journée internationale pour les droits des femmes reste d'abord et surtout l'occasion de prendre la rue afin de donner de la visibilité, de défendre les droits des salariés mal payés, des premières de corvée, des femmes victimes de violences. Je vous le disais, des défilés sont prévus dans quelques 150 villes aujourd'hui partout dans l'Hexagone, un mouvement de grève féministe en plein essor. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Fanny Gallo, historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Est Créteil et autrice d'un ouvrage intitulé « Mobiliser une histoire féministe des contestations populaires » paru la semaine dernière aux éditions du Seuil. Bonjour madame.
Bonjour.
Dès l'introduction de votre livre, vous partez du constat que même si les femmes participent depuis 1945 aux grandes contestations populaires, même si mouvements féministes et mobilisations sociales n'ont jamais cessé de s'éprouver mutuellement, eh bien, à chaque nouvelle manifestation, la participation des femmes continue malgré tout d'être interprétée comme un fait exceptionnel, une surprise, en quelque sorte, à prendre en considération. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ?
Alors, ben, j'explique. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, elles se mobilisaient déjà avant 45, hein, et j'explique ce phénomène par l'idée du déni d'antériorité, en fait, qui a été conceptualisé par une collègue sociologue qui s'appelle Delphine Naudy à propos des écrivaines, c'est-à-dire l'idée que, en fait, on enlève l'antériorité, on oublie rétrospectivement toutes ces mobilisations du fait de la transgression que ça représente, en fait, ce type de mobilisation, puisque elles ne sont pas censées prendre la rue, elles ne sont pas censées faire de la politique, elles ne sont pas censées faire grève, se manifester, etc. Et donc, du coup, voilà, à chaque fois qu'il y a une mobilisation, on se dit, c'est une grève de femmes, c'est historique, c'est très rare, ça n'arrive jamais. Ça favorise une popularisation et en même temps, ça montre finalement l'invisibilisation rétrospective de toutes les contestations antérieures.
Alors, malgré tout, depuis, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on peut distinguer des grands moments de cette histoire commune, donc entre mouvement féministe et mobilisation sociale?
Alors j'ai distingué quatre moments hein, dans mon travail. Un premier moment après 45 avec l'idée de une forme d'idée de complémentarité des sexes qui perdure assez naturalisée avec quand même beaucoup de femmes encore au foyer même si elles investissent le salariat aussi davantage et qui a d'ailleurs aussi une déconstruction de cette idée avec par exemple le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Un deuxième moment qui est le moment des années 70 avec l'élaboration hein, du concept de travail domestique où là du coup on a vraiment cette idée de double journée de travail qui émerge, des enjeux de redistribution du revenu national, des mobilisations pour l'obtention de crèches, des mobilisations de mères y compris contre le nucléaire par exemple sur tout un tas de questions et aussi des mobilisations contre la déqualification hein. Par exemple je prends l'exemple des élèves infirmières qui dénoncent le travail gratuit au milieu des années 70 hein, puisqu'elles doivent même payer pour faire leur stage. Un troisième moment qui est le moment en gros du développement du néolibéralisme où finalement les questions de redistribution sont un petit peu secondarisées, alors pas complètement hein, puisque ces questions elles reviennent quand même dans tout un tas de mobilisations et où on a des contestations qui sont marquées par les luttes contre la précarité. Je prends par exemple l'exemple des travailleuses sans papier et puis d'autres exemples. Et puis un dernier moment, on va dire, hein, le moment des années 2010 où finalement la question du travail domestique revient assez centralement, hein, notamment via aussi les mobilisations internationales pour la grève féministe.
Est-ce que ce dynamisme donc, dont bénéficie la pensée féministe pousse à concevoir autrement les formes, disons, classiques du conflit social, des mobilisations professionnelles?
Ah bah oui, complètement. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi le cas finalement dans les dernières contestations. Hein, les mobilisations féministes, elles permettent aussi de penser une approche désandro-centrée du travail, c'est-à-dire de ne plus concevoir le travail uniquement au masculin, mais justement d'envisager la question aussi du travail domestique, la question du temps partiel, la question des carrières hachées. Hein, et c'était d'ailleurs quelque chose qui était absolument central l'an dernier pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, où on expliquait le différentiel de pension de retraite de 40% par finalement la répartition sur le monde du travail et notamment la question du travail domestique était très largement mise en avant à ce moment-là.
Une dernière question. D'année en année, donc les appels à des grèves féministes en cette journée du 8 mars sont de plus en plus relayés par les mouvements militants, les syndicats. Quel regard portez-vous sur cet appel à la grève qui concerne indistinctement donc les activités professionnelles, salariées, les tâches ménagères, le travail domestique?
Je pense qu'il y a, alors c'est difficile d'avoir le recul historique sur la période contemporaine, hein, mais je pense qu'effectivement, étant donné notamment ce qui s'est passé aussi l'année dernière, il y a des évolutions dans l'appréhension de cette question. Hein. Là, par exemple, cette année, je sais que en plus de la CGT, la FSU et Solidaires, il y a aussi la CFDT et l'UNSA qui appellent à la grève féministe. Donc je pense que ces questions, elles font quand même assez largement leur chemin. Et je crois que, voilà, un élément que moi j'utilise dans mon travail pour le penser, c'est l'idée de travail reproductif, qui commence peut-être à s'envisager ensemble, c'est-à-dire que ce soit les métiers dits du lien, aide à domicile ou dans le secteur hospitalier ou même dans le secteur enseignant et en même temps tout ce travail qu'on effectue dans la famille au quotidien, irrigue aujourd'hui, je pense, les organisations syndicales, en tout cas au moins en partie.
C'est bien compris. Merci Fanny Gallo, maîtresse de conférence, je le rappelle, à l'Université Paris-Est de Créteil, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Lui voulait d'abord et surtout plaire aux garçons de son pays.
Oui, lui c'est Akira Toriyama, créateur notamment de la série mondialement connue Dragon Ball, le célèbre mangaka est décédé à l'âge de 68 ans. Il laisse donc derrière lui cette œuvre qui aura très largement contribué, non seulement à la popularité du manga, mais aussi de l'animation japonaise à l'étranger, l'histoire de Son Goku, un prodige des arts martiaux. Pierre Repère, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel, bonjour à toutes et tous.
En réalité, Dragon Ball était librement inspiré d'un roman datant du XVIe siècle.
Oui, pour le manga japonais Dragon Ball, tout a commencé avec un roman chinois. Cette œuvre, La Pérégrination vers l'Ouest, datée de la dynastie Ming, a infusé la culture japonaise, comme l'explique Xavier Gilbert, commissaire d'exposition pour le Festival d'Angoulême, en charge du patrimoine japonais.
C'est un des grands classiques qui fait partie de ces trois ou quatre grands classiques chinois qui sont importés au Japon, parce qu'il y a forcément des proximités en termes de culture et d'influence culturelle qui vont être traduits et qui vont très rapidement être complètement intégrés dans le folklore japonais.
Ce roman fantastique raconte l'expédition d'un moine bouddhiste, Tang Sanzang, poursuivi par des monstres. Il est aidé dans sa quête par des créatures mythiques envoyées par Bouddha. Parmi ces dernières, Sun Wukong, un singe immortel dont s'est inspiré Akira Toriyama, Xavier Guilbert.
Lorsque Akira Toriyama commence Dragon Ball, les premiers épisodes de Dragon Ball sont une parodie de la pérégrination vers l'Ouest. Si vous lisez les premiers épisodes, on a à la fois une référence graphique qui s'inspire de l'illustration chinoise, puis ensuite, même dans la narration, donc on a cette histoire de Son Goku qui a une queue de singe, qui a le même côté impertinent que le roi singe, qui va récupérer le nuage volant, plus le bâton qui s'étire, qui sont aussi des éléments du singe. Vraiment, les premiers épisodes de Dragon Ball, c'est une parodie, puis après, il va développer toute une cosmogonie qui lui appartient très rapidement.
La pérégrination vers l'Ouest a essaimé dans tout un pan de la littérature japonaise. On en retrouve des traces dans d'innombrables mangas, au rang desquels les plus connus, tels Naruto ou encore One Piece.
Merci Pierre Ropet. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Soleil, grisaille au nord, vent et pluie au sud. Quant aux températures, elles sont comprises entre 11 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Waïba Kedash. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction. Thank you.